Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Vendredi 15 mars, début du week-end pour toutes et tous. On l'espère en tout cas. Peut-être demain, on ira travailler. Eh ben voilà, on va voir. On pense à eux justement, à ces personnes. À toutes et à tous aussi en ce mois béni qui est le mois du Ramadan. Voilà, une petite pensée, comme le dit si bien Vanessa, qui va nous retrouver, qu'on va retrouver justement. Et on va rejoindre à 22h jusqu'à minuit. Une petite pensée pour les personnes qui sont seules. Voilà, au menu de cette émission, on va parler de quoi ce vendredi soir? On va parler de l'Olympique de Marseille, et oui, qui rencontrera en quart de finale de l'Europa League le Benfica Lisbonne. La main de Vata, 89, je crois. On va revenir avec l'équipe de Time Sport concernant cette rencontre-là des Marseillais, sans oublier aussi le tirage au sort assez clément, selon certaines et certains, pour le Paris Saint-Germain face au FC Barcelone. Ce n'est pas le grand FC Barcelone que l'on a connu dans le temps, mais voilà, peut-être une chance pour ces Parisiens, peut-être pas, on verra, on va en débattre dans cette émission. On parlera aussi, c'est le fil rouge de la soirée, Lyon qui se déplace du côté de Toulouse, la ville rose, le stadium qui accueille donc l'Olympique Lyonnais. Et on aura peut-être un mot concernant Didier Deschamps et le temps de jeu de ses joueurs en club. Restez à l'écoute de Time Sport, de Beurre FM du moins, au 01 53 48 3000. D'ailleurs, on rappelle, toutes les émissions sont à réécouter, les podcasts, les replays sur l'application Beurre FM, sur les smartphones, les tablettes, sans oublier le site internet beurrefm.net. Allez, sans plus tarder, on va commencer avec, en présentant la fine équipe qui m'accompagne en ce vendredi soir.
Time Sport. Il est pour parler.
Voilà, il y a Solal qui va rentrer, qui va bien se reposer, on l'espère, et on pourra retrouver dès lundi matin Solal dans la matinale avec l'équipe de Kim. Voilà, rien que pour vous, le petit clin d'œil à l'équipe de la matinale et aussi Didier Kim qui traîne par-ci, par-là. On va le dire au revoir et on espère une victoire des Canaries, le FC Nantes. Ce soir avec moi, pour m'accompagner, on aura Vivien. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir, Vivien. On n'a pas parlé de NBA cette semaine, malheureusement.
Non, mais bonsoir. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas eu d'occasion. C'est une période un peu, en quelques secondes, un peu creuse. C'est-à-dire, il y a Victor Wembanyama qui est en route vers le titre de rookie de l'année. Mais voilà, c'est un peu la période où on attend un petit peu les favoris. Dans la conférence Est, Boston semble clairement être au-dessus du lot. Et puis dans la conférence Ouest, allez, entre les Denver Nuggets champions en titre qui retrouvent petit à petit leur basket, et peut-être quelques équipes comme les Sacramento Kings, les Minnesota Timberwolves avec Rudy Gobert, il faudra encore attendre de voir. Donc c'est voilà, le mois de mars c'est plutôt le mois universitaire, ce qu'on appelle la March Madness. Donc
on va laisser le temps. Eh ben on va revenir, c'est promis. Moha de la partie, bonsoir Moha. On l'a pas vu sur cette antenne et écouté aussi cette semaine. Bonsoir Moha, comment ça va?
Ça va très bien, Bilal, bonsoir à toi, à tous autour de la table, à nos auditeurs et auditrices.
Oui.
Très heureux de revenir ici pour boucler la semaine. Ça fait toujours plaisir d'être sur la plus belle des radios.
Ah ben nous aussi. Alison est de la partie. Bonsoir Alison, comment ça va Alison? Tu vas bien?
Ouais, ça va.
Tranquillement, Edison?
Ça va.
Ouais.
Un peu malade, là, on sort d'une très très grosse grippe, mais ça va.
Ouais, la grippe, l'angine, Edison, hein, ça brûle aussi, c'est vrai. Faut faire attention. Ouais, c'est ça. Un jour pas beau, un jour il pleut, on sait même plus. On va donner la parole, allez, il est avec nous. Lui, il a été là tous les jours. C'est Karim qui est avec nous.
Bonsoir à tous.
Karim, comment ça va?
Bonsoir à tous. Ça va et toi, Bilal?
Ouais, ça va très très bien.
Ouais. Très bien.
Ouais, Karim, c'est le seul qui me demande carrément, comme si on fait une interview avec son présentateur. Mais j'aime bien, ouais, bien sûr, c'est l'interactivité. C'est ça. L'interaction, Karim, il aime bien.
Bien sûr.
Et nous aussi, on l'aime bien, Karim.
Ouais, écoutez, n'hésitez pas à écouter les podcasts.
Ouais.
Et à réagir à l'émission.
Ouais. Ah ben justement, réagir.
Bien sûr.
Le 01 53 48 3000, Karim.
Exactement. C'est ça. Les podcasts, ils sont de qualité. Donc, il faut réécouter si vous n'avez pas écouté, les amis.
Ah, ben oui, parce qu'il y a des personnes de qualité, tout comme toi, Karim. C'est ça, Karim.
Et oui.
Juste en face, on va retrouver qui? C'est Grégory qu'on retrouve. Il était hier soir avec nous, l'agent de joueur. Grégory, bonsoir. Comment ça va?
Bonsoir, Bilal.
Tranquillement.
Bonsoir à tous et à tous les auditeurs, ça va bien.
On en profite, il est avec nous en ce moment, sur Paris.
C'est gentil.
Bon, on en profite pour l'inviter,
et
c'est ça.
On va essayer de finir la semaine tous ensemble.
Tranquillement.
Moi, je pense qu'il devrait rester dans confidence, qu'il a beaucoup de choses à confier. Pour arriver à son niveau, on va pas tout dire, mais il a fait beaucoup de choses en tout cas.
Peut-être.
Mais c'est bien parce qu'il pourra parler du rapport avec les clubs et les équipes nationales. Je pense qu'il doit être bien calé.
Ah ben il est bien calé, on va voir. Mais t'inquiète pas, tu vas voir, ils vont enchaîner.
Exactement.
On avait commencé avec lui. On va donner la parole à Solal, le réalisateur de cette émission. Bonsoir Solal, comment ça va?
Bonsoir, écoute, ravi d'être ici. Merci encore à Monsieur Robichon qui a fait fait parler de son expertise dans le milieu de la santé parce qu'il m'a ramené un gâteau magnifique.
Voilà.
Je me suis régalé.
Eh oui.
Bon ramadan à tous les gens qui nous écoutent, c'est très important aussi. Et ceux qui ne le faites pas aussi, on pense à vous. Et
bien
chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bel et bien sur Time Sport, votre quotidienne sportive. En temps de ramadan de 21h à 22h. Donc n'oubliez pas ce rendez-vous, chers amis.
Voilà, ça fait sourire Alison. Et pourquoi donc? Parce que ce soir, c'est l'anniversaire de Solal. Justement, on lui souhaite un bel et joyeux anniversaire, Solal, à notre réalisateur. Vous voyez, vraiment, Solal.
Merci.
Une longue vie, que du bonheur. Vraiment, Solal. Et de la réussite, en tout cas, parce qu'il le mérite tant. On va se retourner. Oui, toi, tu. Vas-y, il n'y a pas de problème. Tu peux balancer ça sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun souci. Viviens tranquillement. Ça joue du côté du Stadium à Toulouse. Alison, Marseille a eu chaud. Marseille a perdu. Fin de cycle. On s'en jaillit, nous, sur les réseaux sociaux avec le débat du jour. Peut-être la fin de cycle d'un certain Gassé, mais non, on va lui laisser le temps. Ouais, tranquillement, tranquillement. Mais Marseille a perdu hier soir face à Villarreal.
Fin de cycle, pauvre, il est arrivé, on l'a défoncé, il a gagné, on n'est pas sûr de lui, il perd une fois, on le défonce encore. Non, c'est pas une fin de cycle à l'Olympique de Marseille, c'est une défaite. Une défaite comme on peut en subir. Après, effectivement, on s'est fait peur. Du côté de Villarreal, parce que s'en est fallu de peu pour subir cette remontada. Mais encore une fois, il a su réagir, il a su mettre les bons hommes au bon moment, à la bonne place, avec l'entrée d'Aubameyang qui a été décisif, qui a permis d'insuffler un second souffle à Marseille qui était totalement sous l'eau. Et là est arrivé le but de Jonathan Clauss. Donc encore une fois, Gasset a perdu certes, mais a réagi et a mené son équipe vers le bon chemin. Donc Marseille retrouve un niveau en Europe, ça faut quand même le souligner, parce qu'il y a quelques temps, je le rappelle, je me rabâche un peu, mais Marseille était complètement au fond du trou, donc là à la rue totalement, à la rue totalement. Et donc là, voilà, c'est une défaite de Gasset, mais ça passe.
Ça passe, c'est ça.
C'est pas quelque chose de gravissime à mes yeux. Pour moi, elle est un peu anecdotique, cette défaite. C'est pas une défaite qui retranscrit vraiment l'état de forme de Marseille à mes yeux. C'est un peu une faute, je pense, une petite erreur technique de la part des joueurs marseillais que de se faire prendre. Après, moi, je tiens vraiment à souligner la performance de Paul Lopez.
Il sauve Paul Gasol,
le mec, il prenait tous les buts.
C'est Paul Gasol.
Il a vraiment sauvé les Marseillais, mais aussi Aubameyang qui réalise une des meilleures saisons de sa carrière aussi. Il faut le dire. C'est pas parce qu'on n'est pas en première ligue à Chelsea ou du côté du Borussia Dortmund que c'est pas une grande saison. Il sauve Marseille parce qu'il est sur toute la réalisation du but avant l'arrivée de Jonathan Clauss sur la fin. Pour moi, ça peut être une défaite qui peut vraiment resserrer les liens entre les joueurs marseillais, être une défaite un peu constructrice et pas qui va détruire toute la progression de Gasset. Gasset qui est même crédité par Emer Sfaé, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire actuellement. Du coup, pour moi, c'est pas du tout un point négatif du côté de Marseille.
Il l'encense parce qu'il a gagné.
Bah, il l'encense, c'est normal, mais c'était super respectueux comme déclaration et faut mettre du respect encore sur son nom. C'est une défaite qui va juste construire la continuité et la solidité de Marseille pour le reste de la
saison. Pour toi, Karim, solidité marseillaise selon Moha.
Bon, après, moi, comme je l'ai dit hier, j'attendais pas grand chose de ce match. Moi, je m'attendais à une défaite de Marseille à Villarreal.
Ouais, carrément.
Et après, voilà, comme j'ai dit, moi, je pense que justement, ça va plus mettre, en fait, ils vont plus préparer les quarts des finales qui arrivent. Ouais. Et je pense qu'ils vont la jouer à fond, moi, comme je l'ai dit hier.
Heureusement.
Mais je pense qu'il y avait il y a un plan établi. Je pense que Jean-Louis Gasset veut aller très, très loin dans cette compétition. Et je pense que dès les quarts de finale, dès le mois d'avril, là, dès le match aller, on va voir vraiment que, bon, c'était juste une défaite de passage.
Ouais. Défaite de passage.
Oui, c'est sûr que hier, dans son approche, il gagne 4-0 à l'aller, donc il veut faire tourner. Mais peut-être qu'en fait, sa seule erreur, c'est pas d'avoir fait tourner, mais c'est plus dans son approche. Je trouvais que c'était trop défensif parce que c'est pas parce que tu fais tourner que t'es obligé d'attendre derrière et d'avoir vraiment des axios très très bas comme ça. C'est un peu ça où je trouve il a été très français. Alors du côté de Villarreal, je trouve que par rapport à l'aller, l'apport de Capou, je trouve que ça a été un des facteurs qui a un petit peu changer l'équipe. Ils ont pressé beaucoup plus haut, ils ont été beaucoup plus justes parce qu'au Vélodrome, moi je sais pas, je reconnaissais pas l'équipe de Villarreal. Donc Là, j'ai trouvé beaucoup plus globalement et voilà. Donc, c'est un accident, mais sans conséquence. Donc, effectivement, maintenant, il faut avancer. Ce qui va être important pour moi, c'est de bien gagner, surtout le match de ce week-end à Rennes.
Ouais.
Parce que c'est là qui est important. Et c'est pour ça que, d'un côté, il est obligé de faire tourner parce qu'ils ont dû jouer dans l'espace de 20 jours, l'équivalent presque de 6 matchs, à peu près, quelque chose comme ça, sur les 3 dernières semaines. Donc, là, il était obligé de faire tourner, clairement. Donc, voilà, pour moi, c'est une défaite sans conséquence. Après, bon, moi, personnellement, j'ai rien attendu spécialement de Gasset à son arrivée. J'ai jamais été critique.
Ouais.
J'ai jamais été non plus enchanté. Donc, voilà, je pense qu'il travaille plutôt bien, quand même. Mais, voilà, moi,
tu attends, quoi. T'es dans l'attente, quoi.
J'attends, mais c'est plus que, voilà, que pour l'an prochain, je pense quand même qu'il faut préparer la suite, quoi. J'espère qu'il va bien terminer parce qu'il le mérite, mais, ouais, j'ai pas plus m'enthousiasmer que ça, malgré
tout. Bien sûr, dans l'attente, peut-être, oui, Grégory. Ah, c'est l'homme qu'il fallait, Marseille.
Marseille a fait du Marseille. Tout d'abord, il faut rappeler à tout le monde qu'ils ont commencé leur saison très très tôt, mi-juillet. Ça explique peut-être aussi pourquoi il fait un petit peu tourner. Et puis là, on a Marseille qui fait du Marseille. On est dans de l'émotion. Moi, je suis supporter marseillais.
Ouais.
Si je suis supporter marseillais, je vais trembler jusqu'à la 86e, 90e, 91e minute.
Ouais.
Un bon supporter marseillais, hier soir, il a eu de l'émotion. C'est du football, parce que le football, au fond, ça reste aussi de l'émotion.
C'est vrai.
Et in fine, l'essentiel, c'est qu'il soit qualifié. Voilà, puis le reste, on en discute justement.
Un supporter de l'Olympique de Marseille hier a pensé à la remontada du PSG.
Ouais.
C'est ça qui est incroyable. Mais vraiment, à 3-0, à 3-0, ça a commencé à transpirer.
Même avant, parce que vraiment, en première mi-temps, je trouve qu'il loupe beaucoup d'occasions, évidemment.
Et on avait des occasions.
Bien sûr.
Il loupe beaucoup d'occasions et surtout, moi, l'a dit. C'est vraiment l'arrêt de Paul Lopez qui fait vraiment la différence. Parce qu'il faut aller.
Dans les 15 dernières minutes, il était incroyable, Paul Lopez.
Il y a des cadres, en fait, qu'on en parlait depuis le début de la saison. Il y a des cadres dans cette équipe de Marseille qui sont sous-cotés. Ils étaient un peu éclipsés à cause du jeu de Gattuso qui ne les laissait pas totalement s'exprimer. Aujourd'hui, avec un coach comme Gasset qui est vraiment dans l'humain et dans le paternel, ça te permet d'avoir des cadres qui sont totalement à l'aise. Quand t'as un mec comme Aubameyang qui est un peu en fin de carrière et qui arrive quand même à porter, à être clutch comme on dit, et porter l'équipe de Marseille sur les derniers instants et l'aider à vaincre cette pseudo-remontada, parce que ça ne l'est pas, les conséquences n'auront pas été similaires, puisque Marseille doit jouer la Ligue 1 avant tout, c'est sa priorité avant l'Europe. Mais comme tu l'as dit, Vivien, c'est Rennes qui vient après. Mais Rennes, c'est le début d'un long périple pour les Marseillais.
Ouais.
Parce qu'il y a Paris au Vélodrome aussi.
Il y a quand même une trêve internationale qui va faire du bien.
La trêve internationale va faire du bien uniquement physiquement. Elle ne va pas t'empêcher d'affronter des gros cadors. Et après, il y aura Benfica à la fin de ces 4 semaines assez intenses pour les Marseillais. Là, on disait que les Marseillais étaient un peu dans l'émotion. Là, ça risque d'être difficile pour les personnes un peu cardiaques. Les 4 matchs qui viennent, ça peut être compliqué.
Là, il va falloir passer dans le réalisme, justement, les 4 matchs qui arrivent, être extrêmement efficace. Hier soir, ça a manqué d'efficacité. On a un duel qui peut changer, d'ailleurs, toute la physionomie du match. C'est valable de l'autre côté aussi. Hein. Capou, 4 minutes après son premier but, il peut aussi changer. Mais voilà, là, on va rentrer dans vraiment le money time et l'efficacité pour eux.
Ouais, on va voir. Marseille peut-être à la carrure face au Benfica, quart de finale. Elle se déplace à Lisbonne. Moha nous dit non.
Moi, c'est. Oui. Ah, je pense vraiment que Marseille peut bien s'en sortir sur ce mois qui vient. Parce qu'il y a toutes les équipes sont prenables à mes yeux.
Alors.
Marseille, au Vélodrome, peut prendre largement le Paris Saint-Germain.
Largement.
Largement, parce que c'est du football et que c'est pas une science exacte. Quand je vois le Paris Saint-Germain qui est pas totalement en forme et qui a pas un jeu totalement structuré.
Ça va peut-être monter en grade. On va en arriver.
Mais on a vu, Villarreal se prend une valise au Vélodrome parce qu'il y a tout un contexte qui est difficile pour une équipe de jouer là-bas. Aujourd'hui, une équipe comme Paris qui n'a pas des solidités dans le jeu aussi certaines, si Gasset arrive à bien s'en sortir et concocter une bonne recette, ils peuvent prendre Paris, ils peuvent prendre Benfica et aussi Rennes. Donc non, je vois pas d'un mauvais œil les 4 prochaines semaines pour Marseille.
On va voir, allez, soit ça te fait sourire, mais on verra bien Marseille, quart de finale. On verra, à Lisbonne.
On verra bien Marseille, quart de finale. Je pense que effectivement Marseille a les ressources, en tout cas sur le papier. Mais faut pas oublier que en Ligue 1, faut pas laisser des plumes. Marseille doit pour l'année prochaine aller chercher cette place européenne. Et je pense que c'est ce qui va leur faire défaut pour continuer dans cette ligue européenne.
Les 3 places pour l'année prochaine. On est passé devant la Hollande. Hein. Ouais, première,
exactement.
Deuxième, troisième, quatrième.
Préliminaire.
Voilà, préliminaire. Merci pour l'info, Karim. On va marquer d'une courte pause avec Solal et on va revenir avec le Paris Saint-Germain, le fil rouge de la soirée. 13e minute de jeu, toujours Toulouse face à Lyon, 0 partout.
Time Sport revient dans un instant. Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, ce vendredi 15 mars. On est ensemble, 20h16, avant d'accueillir Vanessa, 22h jusqu'à minuit. On est en compagnie de la ravissante Alison qui est avec nous ce soir. Sans oublier le souriant Karim et Vivien. Et oui, le punchy, la force tranquille, c'est Moha le Duc. Non, pas de Boulogne, on respecte Booba, nous. Hein, on va voir, on est cool, hein, mais de Paris. Et on a aussi Grégory qui est avec nous ce soir, voilà, l'agent de football. Sans oublier, allez, autour de dans ce studio, on peut retrouver Christian, un jeune journaliste, voilà, en devenir un présentateur, pourquoi pas, avec Solal à la réalisation, 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard. Il y a des personnes qui accompagnent Solal ce soir, hein, il va nous les présenter tout à l'heure. Allez, place justement au gros dossier de cette émission.
Time Sport. La parole des sociaux.
Alisson, Mohamed était assez chaud justement des matchs qui allaient se passer durant les semaines à venir. On rappelle, quart de finale Arsenal-Bayern, on a les Colchoneros face au Borussia Dortmund, je veux parler du club où il est fan Solal, l'Atlético de Madrid, le Real Madrid qui accueillera ou peut-être qui ira se déplacer du côté de Manchester en fonction des matchs, si c'est approuvé par la Confédération de Football Européenne, l'UEFA, et aussi le Paris Saint-Germain face au FC Barcelone. Le Paris Saint-Germain face au FC Barcelone. On parle de remontada, mais ils ont l'artificier de cette remontada. Il faut rappeler que Luis Enrique était l'entraîneur de cette remontada. Donc c'est le Parisien, oui, le club parisien qui devra faire peut-être cette fameuse remontada. Non. S'il y a remontada.
C'est l'année où il gagne la Ligue des Champions, en plus, avec le FC Barcelone.
Ah ben bien sûr.
L'année de la remontada.
Ah ben il va la prendre aussi avec le PSG.
Entre-temps, il y a eu d'autres confrontations entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain.
Merci de rappeler.
Le Paris Saint-Germain est sorti vainqueur, a éliminé le FC Barcelone. Ça aussi, il faut le rappeler, parce que la remontada, c'est un gros traumatisme, mais il y a eu des après aussi. Et les après ont été favorables au Paris Saint-Germain. Donc effectivement, j'ai envie de dire que le Paris Saint-Germain est dans la bonne partie du tableau. On évite Manchester City, on évite le Real Madrid, on évite Arsenal. Donc voilà, on évite Dortmund, même si on les a déjà rencontrés, Dortmund est déjà battu. Donc j'ai envie de dire, déjà, on peut se relâcher par rapport à ça. On évite vraiment Manchester City, l'ogre de cette Ligue des Champions. Et là, face au FC Barcelone, je dirais que c'est deux équipes qui peuvent se regarder, mais je dirais avantage quand même au Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce que je trouve que le Paris Saint-Germain, défensivement, ça reste un peu plus solide que le FC Barcelone, qui se prend pas mal de buts. Je trouve que le milieu, c'est là où effectivement je donne avantage au FC Barcelone, avec un De Jong, un Pedri et un Gundogan s'ils reviennent, parce que Pedri, je le rappelle, a une blessure musculaire, on sait pas combien de temps il est indisponible.
De Jong aussi.
Et De Jong, non, c'est une entorse, donc normalement il devrait revenir.
Et Pedri aussi, en plus.
Je viens de dire Pedri. Au niveau de l'attaque, à mon sens, pour moi, il y a pas photo. Avantage Paris Saint-Germain. Mm-hmm. Et là, de loin, le Paris Saint-Germain, ça marque des buts. Mbappé, on sait que c'est l'artificier de cette équipe. Alors, on a un problème encore avec le numéro 9. On ne sait pas si ce sera Mbappé ou pas. Mm-hmm. Mais on a Ousmane Dembélé qui vient de quitter le FC Barcelone. Ouais. En face, Lewandowski, ça marque pas beaucoup. On sait pas si c'est Ferran Torres ou pas. On a le petit Lamine Yamal, mais ça reste encore très jeune, je trouve. Donc moi, globalement, en tout cas pour cette rencontre aller-retour, je pense que le Paris Saint-Germain a un sacré avantage.
Grégory, Paris Saint-Germain face à Barcelone.
C'est un bon tirage. Alors, il faut rappeler que sous l'ère QSI, le PSG a été souvent en réussite par rapport à Barcelone. Il y a eu certes le trauma de la remontada. Ensuite, c'est un bon tirage, parce que s'il y a dans les équipes à prendre, je pense que Barcelone est largement prenable actuellement. C'est pas le haut du panier, comme on dirait.
Une place dans le dernier carré, peut-être, alors, pour les Parisiens. Principe.
J'y crois vraiment.
Ouais. On y croit fort, alors. Karim, ce Paris Saint-Germain.
Bien sûr.
Ouais, version Luis Enrique. Ouais. Boula nous disait de lui laisser le temps. Luis Enrique,
Laisser le temps, on lui laisse quelques jours là, du coup. Ouais. Et non, mais honnêtement, là c'est le projet, c'est un projet qui date depuis des années. Il y a une continuité. Il faut que le Paris Saint-Germain rentre dans la cour des grands. Mais il faut qu'il limite en forçant, en fait. Mais là, ils ont tout à gagner, en fait. Là, il y a Barcelone qui arrive. Après, en demi-finale, il y aura soit Dortmund ou l'Atlético.
Ouais.
Mais honnêtement.
Mais attention, l'Atlético. Enfin, on sous-estime l'Atlético. Attention.
Assez guerrière. Ouais, c'est trop bien. Bah,
Dortmund aussi. Hein, même Dortmund, il y a une victoire, une défaite.
Justement. J'allais dire ça. Pour moi, je vois passer le Dortmund. Et donc, j'aimerais bien voir un remake aussi du Paris Saint-Germain Dortmund en demi-finale. Ça serait incroyable. Et en fait, ils auraient affronté toutes les équipes où il y a eu un peu du grabuge ces dernières années avec le Paris Saint-Germain, et ça serait tourner la page et de bonne manière, avec une manière vraiment intéressante.
On l'espère, le PSG pousse le football français vers l'euro, son championnat tout de même. Moha, on va l'écouter avant de revenir à Vivien.
Karim, le Paris Saint-Germain est déjà dans la cour des grands.
Allez, le Paris Saint-Germain est déjà dans la cour des grands.
Plusieurs saisons déjà.
Ouais.
Les points à l'indice UEFA le prouvent, le classement des 10 meilleurs clubs européens le prouve. Paris s'y trouve au-dessus de la Juventus de Turin, de grands clubs européens
chez
aussi.
Monsieur tout le monde.
Mais non, mais
dans la globalité.
Mais
c'est pas un club historique, le Paris Saint-Germain encore.
Paris n'est pas historique, effectivement.
C'est un manque de respect.
Quand je dis la cour des grands, vous savez à quoi je pense.
Il y a qui dans la cour des grands?
Il y a qui dans la cour des grands?
Comme la Juve ou autre. Effectivement, non, ça c'est plutôt mémorique, mais à court terme, il a entièrement raison. Paris est vraiment dans le top des clubs qui se fait actuellement.
On se pensait que Paris, ça fait peur dans toute l'Europe, dans le monde entier maintenant.
Il y a un argument de taille quand le meilleur joueur du monde.
Faut qu'il prouve. Ce club a tout à prouver.
Bah, le club sort quand même fait une finale de Ligue des Champions.
Tu lis la presse étrangère et la presse étrangère, quand leur club tient Paris, ils sont pas forcément super heureux et confiants.
On a la mémoire courte. Pour pas dire.
Vas-y.
On a la mémoire courte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de remontada, il y a eu tellement du grabuge.
Mais ça, c'était dans les années 2010.
À contrario, le FC Barcelone aussi, il y a eu trois remontadas. Ouais. Est-ce que tu dirais que le FC Barcelone ne fait pas partie de la Coupe des Grands?
Mais le Paris Saint-Germain
tu peux pas baser ton argumentaire en disant qu'il y a eu des remontadas. Le FC Barcelone aussi, il y en a eu des remontadas. Il y a eu contre la Roma. Bien sûr que si, le Paris Saint-Germain ne s'est pas pris 8 buts par exemple comme le FC Barcelone.
Mais je préfère en prendre 8 et quelque part avoir fait un beau parcours.
C'est pas un argumentaire valable pour dire que la remontada fait qu'on n'est pas un grand club.
Mais c'est un grand club de marketing dans le commerce, mais c'est pas un grand club sportif.
Là il y a des arguments anachroniques. Alors moi j'aime bien l'histoire et j'aime bien qu'on soit un peu dans une espèce de continuité.
Allez, vas-y.
C'est un club qui est né en 1970.
Exactement.
On ne peut pas le comparer au FC Barcelone.
Non, mais lui, il était fan de Daniel Echter, c'est pour ça.
C'est une jeune équipe, tu ne peux pas la comparer. Une équipe qui a 120 ans d'histoire et qui a déjà pris des roustes et des grosses remontadas par le passé. C'est pas ça qui a fait l'ADN du Barça et c'est pas ça qui va faire l'ADN du PSG. Aujourd'hui, à l'instant T, le Paris Saint-Germain, qui a le meilleur joueur du monde dans son effectif, un des meilleurs entraîneurs au monde. Le mec qui marque un triplé en finale de Coupe du Monde, il est chez le Paris Saint-Germain, l'un des meilleurs gardiens du monde statistiquement parlant, et au Paris Saint-Germain.
Il y a des agents, on va pas dire lesquels, mais
pas les chiffres. Aujourd'hui, en termes d'arrêt, aujourd'hui en Europe sur sa ligne, personne ne fait mieux que Donnarumma. On parle d'un entraîneur, de Luis Enrique, qui a une très grosse expérience, qui entraîne le Paris Saint-Germain, et dire qu'on n'est pas dans la cour des grands quand tu fais partie des 8 meilleures équipes en Europe actuellement.
D'accord.
T'es dans la cour des grands.
D'accord.
Le Paris Saint-Germain est dans la cour des grands.
Ce qui manque simplement, c'est un titre à Paris pour vraiment ancrer.
Exactement. Comme a dit Grégory, ça va venir. Et puis surtout, la Ligue des Champions, il n'y a pas eu 150 clubs qui l'ont gagné. Donc, quand on parle de l'historique, la dernière finale du Barça, ça date de 2015. Donc, le Barça actuellement ne peut pas dire qu'ils sont au-dessus de Paris. Et même, il suffit de voir le nombre de rumeurs dans la presse catalane du retour d'Enrique. Ça prouve à quel point ils sont plutôt désespérés. Xavi en fin de cycle. Donc, je ne vois pas en quoi même le Barça.
Ils l'ont pris comme une bombe dans la presse catalane tout à l'heure. Comme une bombe.
Exactement. Le Paris Saint-Germain, je trouve, a plutôt.
À toutes ses chances.
En fait, c'est ce que j'aime bien dans le tableau, c'est surtout que c'est le profil des équipes qui pouvaient les plus les embêter.
Ouais.
Pour moi, j'aurais eu très peur si on était tombé sur Arsenal.
L'Atlético.
Même le Real, parce qu'un entraîneur comme Ancelotti, aussi, je trouve que sur deux matchs, il peut vraiment. C'est vraiment fort. Et donc, en termes de profil, je trouve que c'est le tableau parfait. Maintenant.
J'entends Vivien. Ouais. J'ai une question pour vous, les amis. J'entends. Est-ce que vous avez une totale confiance avec le Paris Saint-Germain pour cette Ligue des Champions cette année?
J'ai aucune confiance en aucune équipe.
Alors, plus que les dernières années.
Élément de réponse. Deuxième question.
Bah, tu nous laisses pas répondre déjà.
J'ai pris le pouls.
On n'est pas sur C8.
On respecte nos confrères de C8. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, ici?
Deuxième question. Est-ce que vous, s'il ne passe pas ce tour contre le FC Barcelone, est-ce que vous direz toujours que le Paris Saint-Germain est un grand d'Europe?
Avec Dessy, on refait le monde. Avec Dessy, j'aurai les cheveux longs. Avec Dessy, donc on verra.
Ah, les cheveux longs, j'avoue.
Mais bon, c'est pas grave.
Grégory, avant de retrouver Solal.
Parce qu'il y a pas mal d'éléments qui sont réunis aujourd'hui, ne serait-ce que psychologiquement, pour qu'il passe. Mm-hmm. On a un entraîneur qui est un ancien de Barcelone, pour lui, ça va être vraiment une revanche.
C'est vrai.
On a Dembélé, qui lui aussi, il va être dans ce vestiaire.
On a également une équipe parisienne,
je pense que.
Avec le meilleur joueur au monde, selon Moha.
Exactement. Ouais, qui lui veut jouer un dernier coup et qui voudrait peut-être marquer son départ de pas du PSG. Avec une Coupe d'Europe.
Ça serait pas
on
mal.
A beaucoup de choses qui sont réunies. Et s'ils ont vraiment un match référence à travers Barça, que ce soit aller-retour, je pense qu'après, ça peut aller très, très, très bien.
Et pour une fois, le Paris Saint-Germain sera dans un climat, en tout cas, plus sain que son adversaire.
C'est ça.
Pour une fois. Parce que c'est tellement chaos au FC Barcelone à l'heure actuelle que le Paris Saint-Germain pourront souffler.
On a le temps encore. C'est le gros de cette émission. Solal, la réaction. Paris Saint-Germain.
Raymond toujours plus grand. Enrique, première année au Barça, il rafle le triplé. De ce que je vois, PSG encore en lice pour la Ligue des Champions.
Voilà.
La Ligue 1 et la Coupe de France. Donc forcément, quand on rêve un peu plus
gros que statistique à la Solal.
C'est vrai qu'il y a quand même plus de certitude au FC Barcelone. Quand même.
Évidemment. Voilà. Mais par rapport à cette Ligue des Champions, c'est vrai que moi, il y a un facteur qui me fait plutôt aller dans le sens du PSG. C'est vrai que parmi les 7 équipes qu'on aurait pu tirer, le Barça et Dortmund, c'était clairement les meilleurs choix. Après Dortmund, c'est vrai que c'est une équipe qui est un peu moins forte en termes d'effectifs, pas en termes d'alchimie collective, mais d'effectifs purs que le Barça. Ça va être un match engagé, mais par rapport à des autres équipes comme le Bayern, qui sont des rouleaux compresseurs, on s'en rappelle très bien l'année dernière avec Galtier. Bah écoutez, on était assez confiants dans la globalité. Au final, on s'est fait sortir assez bêtement. Il y a la finale, il y a 3 ans, donc. D'autres équipes telles que, je viens de le dire, le Bayern, le Real, Manchester City. Ouais. Quand on compare au tirage qu'on a eu, je trouve qu'on est plutôt chanceux en tant que fan du PSG.
On va en revenir à ces rencontres. Merci Solal. Oui,
et juste pour terminer, si Luis Enrique, il prend 0 trophée sur 3. Et qu'ils disent, mais attendez, mais.
Il est pessimiste comme ça.
C'est la faute du PSG. Je suis dans un club qui est mal géré.
Non, mais il prend 0 trophée sur 3.
J'étais au FC Barcelone, c'était pas la même chose.
Parce que tu vois Brest champion de France, toi?
Comment?
Tu vois Brest passer devant le Paris Saint-Germain,
non,
les gars?
Non, pas ça, mais si il prend 0 trophée sur 3.
Ouais, bah, 0, c'est qu'on va dire que Brest passerait devant dans ton hypothèse.
Il en prend un au moins.
Non, mais voilà, il en prend au minimum un, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ah, mais oui, mais c'est le Paris Saint-Germain, j'avais pas tout de mon côté, il
n'y
avait pas une alchimie.
C'est pas possible.
Mbappé, c'était un peu conflictuel. Non, parce que c'est avec Luis Enrique et Kylian Mbappé, c'est conflictuel. Les deux personnes ne s'aiment pas. Ça se voit, ils ne s'apprécient pas, ces deux personnes.
T'es pas obligé de t'aimer pour avoir des résultats. Il y a eu beaucoup dans l'histoire du football, des entraîneurs.
Pas que, en NBA aussi.
Oui, dans plein de sports. Surtout dans les sports co, tu peux avoir un entraîneur qui n'aime pas sa star. Mmh. Mais on sait très bien que c'est Kylian Mbappé qui va te faire la différence dans les moments clés.
C'est lui qui va faire la différence. Et surtout, Luis Enrique n'aimait pas Neymar aussi au Barça. C'est pas ce qu'il a empêché en 2015 d'être parmi les 3 meilleurs joueurs du monde.
Même Messi le mettait sur le banc la saison du
truc. Moi, j'ai des réserves.
C'est juste un entraîneur avec une idéologie très forte qui veut l'appliquer vraiment sur le terrain. Et je rejoins ce que tu dis, Alisson. Le contexte, il est sain. Et c'est ce que le Barça essaie de déranger sur les réseaux sociaux du club catalan. Juste après le tirage, ils ont posté des images de la remontada pour dire, est-ce que vous vous souvenez de ça? Nous, on s'en souvient. Très bien, c'est que du côté de la Catalogne, on est sur une espèce de stratégie mentale pour essayer de perturber le Paris Saint-Germain parce que sur le terrain, sur le papier, ils savent que ça sera
intéressant.
Compliqué. Du coup, il faut aller sur l'autre sens, le côté mental. Mais Alisson l'a dit, c'est serein.
Et puis, ça existe, c'est le trash talk.
Bien
on l'a vu avec Doumbé et Baki.
Il ne faut pas sous-estimer le management. Luis Enrique a l'habitude du très très haut niveau. C'est pas forcément vrai pour les précédents entraîneurs du PSG. Et puis deuxième point, il a également l'habitude de gérer les relations conflictuelles. On en parlait par rapport à Neymar. Et même si elle est conflictuelle avec Mbappé, je pense qu'il a une bonne expertise aussi à ce niveau-là. Donc j'ai pas d'inquiétude pour qu'il arrive à faire prendre la mayonnaise surtout à ce niveau de compétition.
Moula nous le disait aussi, Grégory, le même mot que lui, c'est vrai, il a l'habitude et il saura y faire, ouais, c'est vrai. Moha, bah, d'accord avec ce que dit Grégory.
Bah oui, ouais, il a l'habitude de son expérience des clubs d'accord. d'avant, ouais. Mais est-ce que l'expérience et l'habitude au Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain c'est unique en fait, c'est ça ouais. que vous n'arrivez pas à comprendre. Ouais. Tous les clubs, ça fait des années qui sont uniques, mais dans des choses pas très positives en fait.
C'est toujours l'archétype en fait, ouais. qu'on essaie d'ériger de certains clubs en Ligue 1. Que ce soit Marseille, c'est un club où c'est l'enfer, aussi, voilà. C'est impossible d'entraîner là-bas. Mm-hmm. Paris, on se fait agresser par des sacs de luxe qui tombent du ciel. Il faut arrêter de transformer le football français en film d'horreur. Paris, c'est entraînable comme n'importe quelle équipe. Ce serait plus dur d'entraîner un club comme le Real Madrid, où la pression de 14 Ligue des Champions t'écrase tous les jours, qu'un club où il y a un espèce d'avenir à construire, aussi léger soit-il.
Pas si sûr, ouais.
Real Madrid,
Real Madrid minimum, c'est les derniers carrés. Real Madrid, c'est minimum. Hein. Ouais, prends l'équipe, c'est pas que la Liga.
C'est minimum victoire.
C'est
ce que les amis disent. Bien sûr, mais ils ont raison dans ce qu'ils disent.
L'impression que doit avoir Ancelotti ou des Zidane et tout chaque.
Bien sûr, mais le Paris Saint-Germain, c'est à part. Faut le mettre de côté, le Paris Saint-Germain. Comment on gère le Real Madrid, comment je vais gérer Liverpool et comment je gère le Paris Saint-Germain, c'est différent. C'est différent.
Un grand club.
Comme tous les clubs.
Non, les clubs. Si tu veux aller dans le côté peut-être étatique, etc., peut-être c'est dans ce côté-là que tu veux aller, je sais pas.
Peut-être.
Je sais pas si c'est ce côté-là, dire parce qu'il y a un état qui gère, etc. Oui, le fonctionnement est à part. Après, sinon.
Non, parce qu'ils ont mis le sportif en second.
Oui, mais c'est.
Non, mais c'est Enrique, tu vois.
Aujourd'hui, on a des jeunes qui sortent.
Il y a un Mbappé, par exemple.
Mais ils les revendent tout le temps, Grégory. Mais Grégory, ils les revendent tout le temps.
Il y a un vrai changement de stratégie, il y a un vrai changement de politique. Et je pense que ça va être payant.
Mais la stratégie aurait pu être marketing sur les dernières années, je peux pas le nier. Mais aujourd'hui, dire que tu ramènes un mec comme Neymar, qui est sûrement un des plus grands techniciens de l'histoire du foot, est-ce que c'est vraiment marketing à 100% ou il n'y a pas une espèce de volonté de faire vibrer le football quand tu ramènes un mec comme Neymar et aussi pour Messi. Ouais, Messi, c'est vrai que ça va vendre tous les maillots que tu veux, mais on parle d'un gars qui a 127 ballons d'or, qui a marqué 14 000 buts dans sa carrière. Si tu le ramènes, c'est pour le foot.
Et puis dans leur développement, ils ont fini, je pense, le processus de branding, de marque, de PSG. Ce processus-là est fini maintenant. Aujourd'hui, ils sont vraiment dans un processus sportif.
Oui, parce qu'ils ont leur communauté, ça y est.
Elle est faite, la communauté, elle est là. Et justement, nous on essaye de la construire avec Vivien, notre communauté, avec Karim aussi. Hein.
Ah bah on n'a pas de même.
Je sais pas s'il va appeler, c'est Jouba qui nous écoute. Il dit Alisson, elle déchire comme à son habitude. Voilà, c'est Jouba.
Ah, écoute,
c'est sympa.
Oh,
c'est ça. Voilà, tout simplement. Allez, on va marquer d'une courte pause. Il y a toujours 0 partout. 33e minute de jeu du côté du stadium à Toulouse, face à Lyon. Et là, c'est le but, c'est ça. Ouais, c'est le but. C'est le but. Non, c'est vrai.
Ah bah,
but de l'Olympique. Lyonnais.
Incroyable.
C'est ça, but de l'Olympique Lyonnais.
Et Mister Lacazette.
Merci. Non, là, j'ai pas vraiment.
Bon, on va la voir.
Je suis devant la télé, j'ai pas. Parce que j'étais en train de parler à Vivien et c'est Vivien qui m'a dit qu'il y a ouverture du score par les Lyonnais. On marque d'une courte pause la dernière avant de revenir encore avec le tirage au sort et aussi Didier Deschamps.
Time Sport revient dans un instant. Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne pour la dernière partie de cette émission qui est Beurre FM, oui, sur l'antenne de Beurre FM. Et dans cette dernière partie de l'émission qui est Time Sport, l'actualité sportive, justement, 21h38, toujours en compagnie d'Alisson, sans oublier Grégory, notre agent de football, Vivien, Karim et Moha, qui m'accompagnent dans ce magnifique studio. On est avec Solal, tout souriant. Il faudrait qu'il nous présente ses amis, peut-être un petit clin d'œil aux amis qui nous accompagnent, Solal. Voyons, cette fin d'émission, vas-y, un petit big up, quoi.
Écoute,
ils sont là, ils sont sympas.
Franchement, c'est les frérots du fond du cœur qui sont toujours là et qui sont prêts à se déplacer, pour lesquels je suis prêt à me déplacer à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, dans n'importe quel secteur.
Tu ne nous disais pas ça en rentrée.
C'est ça. Il a dit tout le monde sauf un.
Moi, je n'avais pas encore pris ça.
Continue. Alors,
il y en a une qui n'aimait pas trop dans le groupe.
J'ai entendu ça aussi.
Non, écoute, bah, déjà, bah, force à mon frérot qu'on peut appeler sous le nom de Xema, Crélor, Max, c'est un poteau d'antan. C'est lui qui m'a fait découvrir plein de choses.
Ouais.
M'a fait découvrir de belles expériences dans la vie, des choses qui m'ont formé aussi. Ouais. Vivien, toujours là pour
Arrête, Vivien, arrête. Vanessa arrive après.
Non, franchement, donc Xema, c'est un amour. C'est quelqu'un qui écrit très très bien aussi, qui a une grosse qualité de concentration pour l'écriture. Et,
ben ça, c'est bien.
Et de transmission aussi.
On recherche beaucoup des scénaristes. Hein. Et, on va aller le voir.
Voilà, forcément, s'il y a à ma droite, il y a un artiste, il y a une autre artiste à ma gauche. Alors qui s'appelle Emmajeur. Je vous invite forcément à regarder ce qu'elle fait. C'est de la qualité, c'est bourré de polysémie, de calembour dans ses textes. Elle a aussi une voix qui, je dois dire ça en premier normalement, je suis censé dire, elle a une voix de fou malade. Donc, force à Emmajeur qui est venue accompagnée d'une de ses meilleures potos, forcément ce soir, avec laquelle elles ont vu, je crois, il y a un concours d'éloquence, c'est bien ça.
Elle peut pas lui chanter Joyeux anniversaire, Bilal?
Ah ben, Joyeux anniversaire, on va le dire après, en fin d'émission. On va lui dire, on verra.
Je suis toujours vivant.
Justement, on va aborder le dernier, allez, gros dossier de cette émission, on y va.
Time Sport, le mode pressing.
Lyon, excusez-moi, en déplacement du côté de la Ville Rose, hein. Stadium, c'est 1-0 pour les Lyonnais. La Casette, c'est bien ça, moi. Hein.
La Casette, ouais, comme d'habitude.
La Casette, le LOSC aussi, qualifié.
Le LOSC, et oui, sont tombés alors sur Aston Villa.
Ouais.
Et pour moi, en fait, le LOSC, sur les trois équipes françaises engagées en Coupe d'Europe, pour moi, c'est eux qui ont le plus à jouer. Et pour moi, ils ont la meilleure carte à jouer sur cette Coupe d'Europe. Le LOSC, ils peuvent aller très très loin en Europa Conférence. Et donc, un grand soutien pour le LOSC. Et allez-y, mes Lillois.
Pour les trois clubs français, Paris, Marseille et les Lillois.
Ouais,
le
pour
LOSC,
moi, c'est ça. Favorable Lille. Ouais. Pour moi.
Allez, on va voir comment
et
ça se passera.
Et juste, là, je voulais rajouter une dernière information pour nos auditrices et nos auditeurs. C'est que les trois clubs français, s'ils vont jusqu'en finale, ils seront club hôte, et donc club à domicile, et donc ils pourront choisir leur maillot.
Ouais.
Et avec peut-être qu'il y aura un peu plus de place pour le club hôte.
Peut-être.
Donc c'est une bonne nouvelle encore.
Que des bonnes nouvelles. Quart de finale, l'édition 2023-2024 à Lisbonne, de cette fameuse coupe aux grandes oreilles, la Champions League, Arsenal et Gunners d'Arteta, qui rencontreront justement là aussi notre d'Europe, le Bayern de Munich.
Ouais, on va se régaler hein, cette année. Je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu que des,
Benji,
des gros bangers,
comme
ça, que des gros matchs alléchants. D'habitude, on en met toujours un de côté. Et celui-là, je préfère aller au resto ce soir plutôt que de le regarder. Non, là, je serais vraiment devant tous les matchs. Eh ben, j'en parlais tout à l'heure en antenne avec moi. Et moi, je trouve que Arsenal a une carte à jouer cette année. Alors effectivement, après, ça sera pas une mince affaire si on passe l'étape du Bayern que d'aller titiller l'un des deux mastodons, le Man City ou le Real. Mais je trouve que le Bayern, alors oui, effectivement, sur papier, c'est une équipe qui fait peur. Oui, c'est un nom qui fait peur, mais c'est friable. Cette année, en Bundesliga, c'est prenable. En Bundesliga, ça perd. C'est plus ce rouleau compresseur qu'on a connu avec Guardiola et consort. Donc, Arsenal, Arteta, ça joue bien. C'est cohérent, c'est premier de la première ligue, donc aller chercher le Bayern, pour moi, c'est pas du tout insurmontable pour eux.
Ouais.
C'est pas du tout insurmontable pour plein d'équipes, et à chaque fois on dit ça, et je te rejoins, surtout que là tu te bases sur la forme d'Arsenal qui est étincelante.
C'est ça.
Mais moi, il y a deux arguments qui peuvent pencher en faveur du Bayern de Munich. Premièrement, les difficultés d'Arsenal face à Porto.
Ouais.
Qui n'est pas une équipe qui est en forme en plus ces derniers temps.
Quand c'est ça.
Et qui a quand même fait bouger les hommes de Mikel Arteta. Et de l'autre côté, je regardais le tirage, moi, à midi de la Ligue des Champions, et 5 minutes après le tirage, il y a une vidéo de Thomas Müller sur les réseaux sociaux.
C'est ça que j'allais
dire. En train de dire Hello Arsenal.
Exactement.
Mais moi, c'est un cauchemar, Thomas Müller. En plus d'être un des joueurs les plus sous-cotés de l'histoire du football. Ce mec-là est flippant. Il fait une vidéo avant chaque match, avant chaque adversaire, et il est limite menaçant. C'est cet archétype du Bayern, c'est limite un cauchemar, le Freddy Krueger du football. Et vraiment, ils viennent la nuit sous ton lit, et ils te tuent, ils te mettent 8 buts à la fin, et t'es mal mentalement.
Ce que j'allais dire, c'est qu'il a été un peu plus clément avec Arsenal qu'avec le Paris Saint-Germain.
Ouais.
Avec le Paris Saint-Germain, c'était limite, c'était un soldat de je ne sais où.
La dernière fois qu'ils se sont affrontés, il m'avait fait
peur un peu, Thomas Müller, quand il s'est adressé au Paris Saint-Germain.
On va remonter dans le temps aussi. Hein.
Oui, bien sûr.
Plus clean avec les Anglais, peut-être moins avec nous.
C'est cool.
La République aussi.
Bien sûr.
Dans tous les cas, toutes les affiches sont extrêmement intéressantes. Elles sont remplies autant de certitudes que d'incertitudes. Donc c'est en cela, je trouve, que cette année, on est bien lotis. Par rapport aux autres années.
Elles sont remplies autant de certitudes que d'incertitudes.
Et ben là aussi.
Non, mais ça résume bien le.
Et fini, ils sont bien lotis.
Pas que. L'autre match, le gros match, Real Madrid, 14 Ligue des Champions face aux vainqueurs en titre.
Ça devient. Franchement, ce match-là, depuis 2-3 saisons, c'est. Bah franchement, c'est comme les briques pendant le Ramadan là.
Ah, carrément,
à chaque fois on retrouve ce match.
À
chaque fois on retrouve ce match. Non mais je suis désolé de le dire, c'est pas une affiche. Au contraire, je suis super pressé de la voir, mais c'est pas la première fois. Elle était un peu plus alléchante quand il y avait le Ballon d'Or du côté du Real de Madrid. Là aujourd'hui, il y a Jude Bellingham qui revient sur ses terres natales en Angleterre. Manchester City est friable aussi cette saison. En première ligne, c'est un peu plus prenable que les années d'avant. Certains cadres qui ont permis de gagner la Ligue des Champions sont en méforme. Je pense à Erling Haaland, je pense à Jack Grealish qui est sur le banc, et surtout Ruben Dias qui solidifiait cette défense de Manchester City d'une main de maître. Aujourd'hui, la charnière à City, elle est vraiment, elle est mystique. On ne sait pas, un jour ça peut être Hake, le lendemain ça peut être Ederson, le gardien qui monte un peu plus. C'est vraiment, il n'y a aucun sens au niveau de la défense. Et quand tu as une équipe qui a la flèche Vinicius, Rodrigo en Ligue des Champions qui se transforme en Romario et Jude Bellingham qui est la réincarnation de Zidane sur un terrain, c'est vrai que là la confrontation elle est alléchante sur ce point de vue là. Mais défensivement, c'est friable des deux côtés.
Côté
du Real de Madrid, on a eu 47 blessures aux ligaments croisés au niveau de toute la défense. Du coup, il y a une charnière Nacho Rudiger qui est pas trop complémentaire à mes yeux et qui va se faire un peu bouffer par Erling Haaland.
Pour prendre Haaland, c'est pas mal, hein.
Pour prendre Haaland, c'est pas mal. Surtout que Haaland s'est fait manger par Rudiger l'année dernière. Mmh. Mais là, on a un Kevin De Bruyne qui revient en forme. Il fait vraiment peur cette saison.
Elle est là la différence.
C'est ça. Il n'était pas en forme la saison passée. Il a même pas joué la finale de la Ligue des Champions. Il est sorti sur blessure une deuxième fois consécutive, sa deuxième finale. Aujourd'hui, c'est une confrontation. Ils peuvent se regarder droit dans les yeux, comme tu l'as dit, pour le PSG et le Barça. C'est le cas aussi pour ce match-là. Moi, personnellement, je donne un avantage, encore une fois, au Real de Madrid, parce que c'est une équipe qui est increvable, qui est intuable. Ancelotti, je reprends la phrase de nos confrères de chez RMC Sport. Guardiola a pris le football à Ancelotti pendant 80 minutes. Ancelotti lui a pris la vie sur les 10 dernières minutes. C'est ce type d'entraîneur mythique qui peut vraiment te faire gagner n'importe quel match. Du coup, pour moi, c'est un 50-50 parfait et c'est l'affiche de ces quarts de finale.
Ouais, l'affiche, Alisson, peut-être avec Vivien.
Non, 50-50, peut-être pas. Moi, je donnerais quand même l'avantage, l'avantage à Manchester City.
Ouais, au Sky Blue.
Alors, effectivement, moi, là, très très bien résumé. Mais je trouve que le Real Madrid, surtout sur ses derniers matchs, pas en début de saison parce que c'était pas comme ça. Sur les derniers matchs, je trouve que c'est une somme d'individualité comme on a pu connaître le Real avant. Et là, je trouve que niveau collectivement, ça donne moins de choses. On a Bellingham, effectivement, qui fait des différences. On a Rodrigo, effectivement, qui fait des différences. Et Vinicius. Et le reste, ça reste assez brouillon. On sait pas trop qui sera aligné. On sait pas trop comment ça va. Donc, voilà. Pour moi, City reste quand même au-dessus. On sait qu'on a un buteur qui quasi ne faillit jamais. On a De Bruyne qui retrouve son meilleur niveau. Et on sait que City, avec De Bruyne en forme, c'est pas pareil et ça fait très très mal.
Ça va très très vite, toi aussi.
Pour appuyer ce qui est dit
par Alisson.
Par le passé, on a eu un Real avec vraiment un top player qui pouvait faire la différence, comme ça a été dernièrement avec Karim.
Ouais.
Mais là, dans les trois joueurs qu'elle cite, je les vois pas être à ce niveau-là pour pouvoir faire vraiment la différence ce même. Et donc, je pense que City derrière, ils vont faire mal.
City, ça fera mal, c'est ça. Bien.
Puis le gros souci pour moi, le Real, c'est l'absence de Courtois. Alors, je pense même qu'ils vont peut-être, ils vont essayer de le faire forcer d'un retour, mais dans quel état? Et c'est parce que là, il y a des rumeurs de retour pour le mois d'avril, mais on ne sait pas trop. Et c'est moi, c'est plus ça qui, parce que contre une équipe comme City, voilà, il peut te sortir un ou deux arrêts, notamment en 2022, c'était un petit peu ce qu'il avait fait.
Mais il a dégoûté à Londres.
Oui, exactement.
L'année dernière, il a dégoûté à Londres.
Exactement. Donc c'est après, effectivement, City a plus de certitude dans le jeu, mais c'est là où je crois au Real et beaucoup à la méthode d'Ancelotti, c'est que même en transition rapide, il peut toujours trouver un petit peu cet ajustement tactique. L'an dernier, par exemple, je pense qu'une des erreurs d'Ancelotti, c'est qu'au retour, il a mis Rudiger sur le banc. Et c'est pour moi, c'était ça. Hein, et à mon avis, il ne refera pas ce genre d'erreur.
Il va pas mettre le soldat sur le banc cette fois-ci.
Ah ben oui, donc c'est pour ça que moi, je suis plutôt partisan du 50-50.
On sait que c'est une erreur parce que le match est fini, donc on est général à après la guerre.
Ah, mais oui, on avait deux certitudes. On est difficile avec des entraîneurs qu'on respecte. Et moi, Ancelotti, c'est un entraîneur que j'admire beaucoup. Donc, on est exigeant avec des. Enfin, ce sont deux monstres du football. Donc, on est exigeant avec deux entraîneurs légendaires.
Parce qu'on connaît. Les entraîneurs font aussi des paris. Donc, effectivement, des fois, il y a des paris qui sont pas forcément payants.
Parfois les chefs d'équipe aussi font des paris. Donc, parfois les chroniqueurs aussi sont des paris. Parfois c'est pas toujours.
Vas-y, Karim.
Juste pour terminer, moi j'ai une petite analyse. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les amis.
Allez, vas-y.
Je pense que entre le match entre le Real Madrid et Manchester City, eh ben ils vont laisser un peu des plumes et c'est parfait pour le prochain tour. Donc soit Arsenal, soit le Bayern qui passe. Et je pense que attention. Pour ces deux équipes de City ou du Real, moi je pense qu'ils vont y laisser des plumes, ils vont y laisser de l'énergie, et donc c'est un point positif pour la prochaine équipe qui va affronter en demi-finale, le Bayern Munich ou Arsenal.
C'est plutôt City qui risque de laisser des plumes en première ligue, contrairement à Madrid.
Exactement.
Et c'est pour ça que c'est là où City peut-être sur les deux confrontations ça risque de peser.
Pour vous c'est terminé la Liga, terminée.
Bah, ils ont combien tout, 6 points d'avance sur Gironde et 9 sur Barça ou 7 ou 8 de mémoire.
Mais vous savez très bien que ça va vite. Et en plus, généralement, en Serie A, ça jouait à chaque fois entre le Real Madrid et le Barcelone dans les dernières journées. Entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Ça se jouait jusqu'au dernier moment, aux dernières journées.
Là, t'as trop de points d'écart et en plus, t'as un Classico gagné par le Real Madrid. On sait qu'en Espagne, en cas d'égalité, c'est les confrontations directes qui comptent. Et là, le FC Barcelone. Je ne les vois pas regagner contre le Real.
L'infirmerie du Real Madrid, elle a été active cette saison. Ouais. Et donc, elle va continuer à être active. Et donc, moi, franchement, ces deux équipes, attention cette année, attention, ils sont favoris, mais les taux se resserrent en fait. Bien sûr. Comme je le disais hier, pour moi, on assiste à un nouveau cycle en Coupe d'Europe. Et tous ces grands noms, ces grands équipes.
C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain va acter ce nouveau cycle.
Et bien, il faut qu'il force.
Pourquoi pas?
Il faut qu'il force, Alisson. Il faut qu'il rentre dans le moule. Il faut que vraiment il s'introduise dans tout ça. Vraiment, vraiment.
Ça peut être le retour du Barça sur le top d'Europe.
On a Luis Enrique qui vous dit que c'est le meilleur entraîneur du monde et on a le meilleur.
Qui a dit ça
entre guillemets.
Ah non,
on a le meilleur joueur du monde qui est Kylian Mbappé. Donc on a tout pour les faire sortir, c'est Barcelone. Non, honnêtement, pour moi, c'est la voie royale pour le Paris Saint-Germain.
Karim, en vrai de vrai, par rapport à ta question, je la trouve intéressante en soi, mais juste les équipes qui perdent des plumes dans des tournois à élimination directe, c'est en général des matchs où il y a un outsider, un challenger. Et justement, ils vont avoir un regain d'énergie qui va pousser l'autre équipe dans ses retranchements. Alors que là, justement, ce Manchester City Real, ça va être plus une guerre tactique. Ça va être deux équipes qui vont s'observer peut-être pendant longtemps. Il y aura des fois des flèches qui vont partir, mais ce ne sera pas des gens qui vont courir.
Ils vont y laisser des plumes, ils vont y laisser de l'énergie.
Ils ont l'habitude.
Ils sont pas d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu
veux? Moi, je rejoins l'avis de Vivien. Quand tu as une équipe qui joue en première ligue et qui se fait tirer par Liverpool durant toute la saison, un Liverpool qui est vraiment en mode phénix pour la dernière saison de Jürgen Klopp, t'as plus de chances de laisser des plumes sur une double confrontation.
Et c'est bientôt en plus City.
Merci.
Liverpool,
merci à moi, merci à toi aussi Alisson, merci à Grégory, merci à toi Vivien, sans oublier Karim et peut-être l'ami, on a Acapella, c'est Alisson qui voulait l'entendre Acapella, la chanteuse. Non, elle veut pas ça faire.
Moi je peux le faire.
On rentre, on va laisser des plumes. À partir du 15 avril, on rentre dans les temps de parole politique pour les élections européennes.
C'est pas déjà fini l'émission.
Non, c'est fini l'émission. C'est fini, ton temps de parole ça est écoulé.
Mais les auditeurs, ils en demandent plus.
Il est écoulé. Ils en demandent plus, il y a Vanessa qui arrive. Vous restez à l'écoute. Très si auditeur, 22h minuit et nous on se retrouve à partir de la semaine prochaine dès lundi. Bye bye.
Retrouvez Time Sport, podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.